Le journal avec Antoine Denecher, bonjour.
Bonjour. L'enquête avance 2 jours après l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Les enquêteurs auraient identifié le second tueur, un jeune Français de 19 ans, né dans les Vosges, vivant en Savoie et fiché S, nous dira Jean-Philippe Degnaud.
Nous entendrons aussi dans ce journal celles et ceux qui étaient à la messe d'hommage au prêtre hier soir à Notre-Dame de Paris, entre appel à la paix et colère. Ce sera un reportage de Marie Bonisseau.
La convention entre l'assurance maladie et les représentants des médecins libéraux n'est pas encore signée par suffisamment de syndicats pour être validée, mais hier, MG France, numéro 1 chez les généralistes, a dit oui et pas seulement parce que la consultation passera à 25 €, nous dira son président.
Barack Obama et Hillary Clinton enlacés sur la scène de la convention démocrate, c'est la belle image de la nuit en provenance de Philadelphie. Frédéric Carbone a suivi le discours du président américain Barack Obama pour France Culture.
Et il prend officiellement ses fonctions de président du Pérou aujourd'hui. Pedro Pablo Kuczynski n'aura pas la partie facile dans un pays divisé politiquement et sans majorité au Parlement, c'est ce que nous expliquera Nadine Epstein dans ce journal. Les enquêteurs sont sur la piste du deuxième terroriste de Saint-Étienne-du-Rouvray. Alors qu'Adel Kermiche, l'homme au bracelet électronique, a été identifié dès mardi, jour de l'assassinat du père Hamel revendiqué par Daesh, l'identité de l'autre tueur reste incertaine. Mais les policiers, a priori, font le rapprochement avec un jeune homme recherché depuis quelques jours par les services antiterroristes, Jean-Philippe Degnaud.
C'est un renseignement en provenance de l'étranger qui est parvenu au service de l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, le 22 juillet. Ce renseignement signalait qu'un de nos ressortissants venait de rentrer en France et qu'il s'apprêtait à commettre un attentat avec d'autres individus. Aucune autre précision sur ce projet d'attentat. Il n'y a même pas le nom du suspect, juste une vidéo sur laquelle il apparaît. Les enquêteurs vont pendant 4 jours éplucher tous les fichiers, lancer des avis de recherche dans les commissariats de France. Et c'est finalement avec l'identification du second assaillant de Saint-Étienne-du-Rouvray qu'ils pourront faire le rapprochement. Trop tard, certes, mais faute d'avoir eu son nom, le jeune homme était quasiment indétectable. D'ailleurs, à ce stade de l'enquête, l'origine du lien qu'il a entretenu avec Adel Kermiche dans la préparation de l'attentat en Normandie n'est pas encore clarifiée. On ne sait toujours pas comment les deux jeunes hommes sont entrés en contact, ni comment ils ont mis en œuvre leur projet sans se faire repérer.
Explication Jean-Philippe Degnaud. Par ailleurs, Hamak, l'agence de propagande de l'organisation État islamique, a mis en ligne hier soir une vidéo des deux hommes qui sont présentés comme les assaillants de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. On les voit prêter allégeance au chef de Daesh. Saint-Étienne-du-Rouvray qui va rendre hommage au prêtre assassiné mardi. La marche blanche prévue par la municipalité n'est pas autorisée par la préfecture pour des raisons de sécurité et la cérémonie se déroulera donc ce soir au stade municipal. Hier soir, les représentants de l'État, dont François Hollande, représentants du Parlement également, des partis politiques et des cultes, se sont retrouvés tous ensemble dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le cardinal André XXIII, qui officiait, a lancé un appel à la cohésion et s'est adressé aux politiques avec ces mots. Le combat des mots finit trop souvent par la banalisation de l'agression comme mode de relation. Une société de confiance ne peut progresser que par le dialogue, dans lequel les divergences s'écoutent et se respectent. Il a fini par un message de paix. Alors ce message, justement, a-t-il été entendu par les 1500 personnes présentes hier à Notre-Dame? C'est un reportage de Marie Bonisseau.
On ne construit pas l'union de l'humanité en chassant les boucs émissaires. Un sermon du cardinal André XXIII très applaudi pendant la cérémonie. Dans la foule, Julien, lui, n'a pas scié. Il est sorti agacé avant la fin.
J'ai un peu l'impression qu'on rejoue les martyrs chrétiens face aux lions, quoi. On peut vivre ensemble, mais pas avec tout le monde.
Comment pardonner le pire? Céline, très émue, se raccroche à cette prière.
J'ose vous demander, Seigneur, de sauver les assassins du Père. En gros, c'était vous qui pouvez tout, Seigneur, sauvez-les. Ça m'a transpercé.
Derrière elle, sur le parvis, il y a Swad.
C'est comme toutes les religions monothéistes, c'est le pardon qui gagne.
Et Marie-Louise.
Même si ça fait mal.
Les deux sont bras dessus, bras dessous.
Elle est musulmane et moi je suis catholique.
Et c'est Marie-Louise, la catholique, qui s'est laissée convaincre de venir à Notre-Dame.
Je l'avais dans mon cœur, mais je pensais pas y aller. Elle m'a téléphoné. Elle m'a dit j'y vais. Je dis bon, ben je vais venir avec toi.
Pour moi, c'était très important de dire que la paix, la paix, la paix.
Une paix qui passe par le dialogue entre les religions. Pierre-Marie en est convaincu.
Moi, je discute tous les jours avec les musulmans parce que je travaille dans une collectivité territoriale de Seine-Saint-Denis, justement, dans les banlieues. C'est là où il faut provoquer le dialogue.
Nous, catholiques, conclut le trentenaire, nous ne devons plus avoir peur de faire de la politique. Il en va du vivre ensemble.
Reportage de Marie Bonisseau pour France Culture. Le pape François, à son arrivée au JMJ en Pologne hier après-midi, a estimé que le monde était en guerre, mais pas en guerre de religion. Toutes les religions veulent la paix, ce sont les autres qui veulent la guerre. Un mot concernant l'attentat du 14 juillet à Nice. Le rapport de l'inspection générale de la police estime que le dispositif policier ce soir-là n'était pas sous-dimensionné. Rapport insuffisant, dénonce d'ores et déjà l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi. Ce matin dans le Figaro, Laurent Wauquiez, numéro 2 du parti Les Républicains, demande à Manuel Valls et à Bernard Cazeneuve de partir parce qu'ils refusent de prendre les mesures indispensables pour combattre l'islamisme. De son côté, dans une tribune dans le journal Le Monde, le garde des Sceaux, en reprenant les propos de Nicolas Sarkozy, rétorque que les arguties juridiques sont notre force, notre constitution garantit les libertés publiques pour qu'en France on ne puisse pas enfermer sans preuve au nom de l'efficacité. Je refuse cette volonté de guantanamoïsation de notre droit, écrit Jean-Jacques Urvoas dans Le Monde aujourd'hui. SFR aurait annoncé en interne la suppression à venir à partir de juillet 2017 de 5000 postes, à savoir un tiers des effectifs. Lors du rachat de l'opérateur télécom en 2014, Patrick Drahi s'était engagé à maintenir l'emploi mais uniquement jusqu'au 30 juin 2017. Cela se veut un geste à destination de l'opinion publique et des salariés de Renault. Le groupe automobile français annonce qu'il va réduire de 20% la part variable de la rémunération de son PDG Carlos Ghosn, Guillaume Gaven.
Le salaire de Carlos Ghosn va donc un peu baisser. La part variable sera désormais plafonnée à 120% du fixe contre 150% auparavant. C'est ce qu'a annoncé le conseil d'administration de Renault. L'an dernier, le PDG avait touché un fixe d'1,2 million, un variable d'1,8 million, soit 145%. Avec le nouveau calcul, le variable se serait élevé à 1,4 million. Cela suffira-t-il à éteindre l'incendie? Il y avait urgence en tout cas. Lorsque le 29 avril dernier, les actionnaires avaient rejeté le salaire de Carlos Ghosn, ils n'avaient pas été écoutés. Le conseil d'administration avait maintenu la rémunération. La polémique était alors montée jusqu'au gouvernement qui a soutenu un amendement pour rendre contraignant le vote des assemblées générales d'actionnaires. Le texte a depuis été adopté par les députés. Et Renault annonce que Carlos Ghosn a décidé de consacrer chaque année 1 million tiré de sa rémunération variable à des actions soutenues par la Fondation Renault, accompagnement de jeunes en difficulté, actions d'éducation dans des pays en guerre, histoire de calmer le jeu encore.
Même avec 20% de baisse de la part variable, le salaire de Carlos Ghosn reste indécent. C'est la réaction du syndicat CGT pour qui le salaire du PDG de Renault va quand même frôler l'an prochain les 7 millions d'euros avec la valorisation des actions de l'entreprise. Un conseil d'administration important aujourd'hui pour EDF. La réunion du jour vise à donner ou pas le feu vert au projet Hinkley Point, à savoir la construction de 2 réacteurs EPR en Grande-Bretagne. Le patron d'EDF et le gouvernement y sont très favorables et veulent aller vite, alors que les syndicats sont majoritairement sceptique à l'intérieur de l'entreprise sur le calendrier et le coût de ce projet.
8h08 sur France Culture, la suite du journal d'Antoine Denecher avec cette question. La convention entre l'assurance maladie et les médecins libéraux va-t-elle être signée?
3 syndicats jusque-là très opposés paraissent un peu plus enclins à signer depuis que le directeur de l'assurance maladie a accepté de revaloriser le tarif de la consultation de 23 à 25 euros en une seule fois à partir du 1er mai 2017. 2 syndicats se disent d'ailleurs d'ores et déjà prêts à signer le texte final soumis hier soir à la signature. Le Bloc, qui est le syndicat des chirurgiens, et puis MG France, qui est numéro 1 chez les généralistes. Pour Claude Lécher, le président d'MG France, ce projet de convention quinquennale met fin à l'injustice, dit-il, connue par les généralistes par rapport aux spécialistes depuis des années.
On peut dire que, effectivement, l'essentiel de la négociation financière va revaloriser et porter sur les médecins généralistes des sommes relativement conséquentes, environ des 3/4 des sommes discutées dans cette négociation conventionnelle. C'est évidemment une satisfaction pour MG France qui défend la médecine générale qui est en grande difficulté avec une démographie qui est en chute libre depuis 5 ans et qui va continuer à chuter pendant des années qui viennent. Par contre, dire que c'est fait au détriment des autres spécialités, ça c'est factuellement inexact. Quand vous regardez le niveau moyen de revenus des autres spécialités, si vous prenez le chiffre d'affaires moyen et le bénéfice annuel, le salaire annuel d'un médecin, il est de 50% plus élevé quand vous n'êtes pas généraliste. Et si en plus vous tenez compte du fait que les généralistes travaillent 300 heures de plus chaque année, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas 2500 heures comme les autres spécialités, on travaille 2800 heures par an. À ce moment-là, vous vous apercevez que le différentiel de rémunération à l'heure travaillée est de plus 78% pour les autres spécialités. Donc quand vous démarrez une négociation avec un tel différentiel, quand bien même vous consacrez 75% des sommes disponibles aux généralistes, vous ne faites que commencer à rattraper un retard qu'il est absolument nécessaire de combler dans les années qui viennent. Faute de quoi, il ne faut pas s'étonner que les étudiants en médecine choisissent préférentiellement d'exercer d'autres spécialités mieux rémunérées avec moins de temps de travail que la médecine générale. Donc si on veut dégénérer dans ce pays, il faut d'une part les rémunérer, d'autre part reconnaître le travail qu'ils font.
Des propos recueillis par Anne-Laure Chouin. Une dernière réunion est prévue fin août pour acter la signature ou non de cette convention par les différents syndicats. La convention démocrate se termine la nuit prochaine à Philadelphie par le discours attendu de celle qui est désormais officiellement la candidate du parti à la Maison-Blanche, Hillary Clinton, qui a reçu cette nuit le soutien du charismatique Barack Obama. Frédéric Carbone.
C'est un discours bilan, mais c'est aussi une déclaration de guerre politique à Donald Trump. Et pour cela, Barack Obama convoque l'histoire de l'Amérique, ses pères fondateurs, sa mixité, ses traditions d'accueil, bref, ses valeurs pour prévenir le candidat républicain qu'il n'a pas sa place à la Maison-Blanche et qu'il ne gagnera pas.
Anyone who threatens our values?
Toute personne qui menace nos valeurs, qu'il soit fasciste, communiste, djihadiste ou démagogue de l'intérieur, échouera toujours à la fin. C'est ça l'Amérique.
That is America.
Autrement dit, l'Amérique, ce n'est pas Donald Trump. Le président américain ne peut guère aller plus loin. Il demande donc à ceux qui l'ont élu à deux reprises de rejeter le cynisme et la peur pour élire Hillary Clinton. La candidate démocrate devient le rempart contre une menace existentielle. Et pour Barack Obama, elle est à la hauteur de la mission.
There has never been a man.
Il n'y a jamais eu un homme ou une femme, ni moi, ni Bill, personne, plus qualifié qu'Hillary Clinton pour servir en tant que présidente des États-Unis.
To serve as president of the United States of America.
Hillary Clinton est prête pour le bureau ovale, lance Barack Obama. Il ne lui reste plus qu'à la faire venir sur scène. Les voilà tous les deux souriants et bras levés. Rare moment de légèreté dans un discours grave. Pour Barack Obama, ce qui se joue en novembre, c'est un choix entre l'espoir et les ténèbres.
Reportage de Frédéric Carbone à Philadelphie pour France Culture. En Turquie, jusqu'où ira le président Erdogan 13 jours après le putsch raté? La purge n'en finit plus. Hier soir, la presse et l'armée ont de nouveau été la cible des autorités. Alexandre Miette.
Le Premier ministre avait annoncé mercredi que les purges n'étaient pas terminées. C'est en effet un coup de balai magistral qui a été donné. L'annonce, ou plutôt les annonces, ont été publiées au journal officiel. Ce sont d'abord des dizaines de journaux, de magazines, des chaînes télé, des radios, trois agences de presse qui sont fermées par les autorités. Pour la plupart des médias proches de l'imam Fethullah Gulen, même si certains titres sont surtout connus pour leur opposition au président Erdogan. Ensuite, c'est un coup de balai dans l'armée. 150 généraux, près de la moitié des généraux de l'armée turque sont limogés. Sans compter plus de 700 officiers et des centaines de gradés qui sont remerciés. Une annonce attendue, mais qui arrive avant l'heure. Ce jeudi matin, le Conseil militaire suprême doit se réunir sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan, justement pour réorganiser l'état-major de l'armée turque.
Alexandre Biette à Istanbul pour France Culture.
Antoine Denecher à suivre également. Il était banquier à Wall Street. Il va désormais présider aux destinées de son pays. Et son pays, c'est le Pérou.
Pedro Pablo Kuczynski, élu le 5 juin dernier, prend officiellement ses fonctions aujourd'hui. Il a promis de tourner la page, de changer son pays, confronté au ralentissement économique, à la pauvreté, à l'insécurité. Mais pour réformer, le nouveau président péruvien doit composer avec un parlement majoritairement acquis au parti de sa rivale Keiko Fujimori, Nadine Epstein.
PPK, comme le surnomment les Péruviens, qui est aussi, pour la petite histoire, le cousin de Jean-Luc Godard, est obligé de diriger une cohabitation. D'abord, à l'intérieur de sa majorité, il doit composer avec la formation de gauche qu'il a soutenue dans la campagne pour battre Keiko Fujimori. Il a dû en tenir compte en formant, il y a 10 jours, le nouveau gouvernement. 19 membres, beaucoup de technocrates, 5 femmes, des représentants de la société civile, un seul ministre issu de son parti, mais ils ont presque tous une large expérience des affaires publiques, a déclaré le président, qui précise que les priorités du nouveau cabinet est d'améliorer la sécurité et relancer la croissance. Ce sont là les deux principales préoccupations pour la majorité de la population. Le Pérou est un des premiers producteurs au monde de cocaïne, affaire qui représente près de 8,5 milliards de dollars par an, qui engendre violence, bandes de narcotrafiquants, crimes organisés, trafic, corruption et blanchiment d'argent. PPK a promis de renforcer la police et de durcir les peines. Mais le Parlement est contrôlé par le parti Fuerza Popular de Keiko Fujimori, qui détient la majorité majorité absolue, 73 sièges sur 130, une cohabitation à l'image du pays divisé presque en deux camps égaux. Le scrutin présidentiel s'est joué à 43 000 voix près entre les pro- et anti-clans Fujimori.
Merci beaucoup Nadine Epstein. La France coupée en deux, ce n'est pas de la politique mais la météo. Nuages voire pluie sur une grande moitié nord. Soleil au sud malgré les nuages dans le sud-ouest ce matin. Température estivale de 19 degrés cet après-midi dans le Cotentin à 33-34 dans le Vaucluse.